Des quenouilles.
Des quenouilles.
Rebond.
Indépendance.
Meuf.
Savoir.
Indépendance.
Être.
Ventre.
Serre.
Savoir.
Savoir.
Voix.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On est sur Radio Panique. On est sur Radio Panique et dans le parc Josaphat. Et on est en studio volant avec Suzy et Valentine en régie vantée, éventée. Et puis on est en compagnie de Quenouille Aliette. Et on a une invitée toute particulière, Charlotte. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Est-ce qu'on s'entend ? Est-ce qu'on s'entend entre nous déjà ?
C'est une bonne question.
Ouais.
Moi, je pense qu'on
s'entend. Un jeu vidéo, technique parce qu'on est dans les arbres et qu'on a construit une cabane.
Ah, mais qu'on a peur de rien.
Ça y est, on s'entend. Bon, voilà. Bah, donc, bienvenue sur Radio Panique 105.4 pour l'émission des quenouilles. Si vous ne connaissez pas le principe, bah, le voilà. On choisit un mot à l'avance en début d'année et on tourne autour du mot un peu comme on veut et un peu comme on peut. Et donc là, ce soir, le mot qui dédiera notre émission, c'est le mot asset. Quenouille Aliette, est-ce que tu n'as pas un petit truc à nous dire sur le mot asset ? Et après, je ferai la petite dédicace.
Alors, au stabilo jaune dans vos cerveaux, dans la notion religieuse, celui, celle qui, soit dans une communauté, soit à titre individuel, s'exerce à la prière et à la perfection morale en menant une vie austère, faite d'exercices spirituels, de mortification et d'abstinence. Par extension, celui, celle qui s'impose une vie austère en éduquant et limitant ses besoins.
Ça voilà, donc on verra si on est autodéterminé à être des ascètes ou si après cette émission, on ira plus vers plus d'ascétisme. En tout cas, les quenouilles dédient l'émission à deux femmes assez incroyables, à savoir Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, qui ont cofondé en 1970 la Street Transvestite Action Revolutionaries, alias STAR, qui est un groupe d'entraide aux drag queens et aux femmes trans non blanches sans abri, ainsi qu'en fait à tous les enfants et les familles des quartiers populaires à New York City, à Saint Christopher exactement, où elles erraient, elles vivaient et elles dansaient. C'était aussi des street queens, comme on dit. Et elles ont entre autres participé à des marches de libération queer, à d'autres formes d'action directe. Pour ceux et celles qui connaissent pas encore Stonewall, bah, il est temps d'aller un petit peu rechercher ce que c'est que la révolution Stonewall, qui a donné par la suite des répressions policières tellement fortes qu'il y a eu des répliques qui ont ensuite formulé des prides. Voilà, et Marsha P. Johnson poursuit son engagement dans les années 80 en militant pour ACT UP entre autres, et elle est retrouvée morte dans un fleuve le 6 juillet 1992, donc c'est une date anniversaire un peu compliquée parce que c'est pas celui de sa naissance, mais en tout cas on parle d'elle et c'est à elle qu'on dédie cette émission. Voilà, et puisqu'on rend fémage à une Sylvia, donc Sylvia Rivera, qui était une acolyte de Marsha P. Johnson, en voici une autre. Je raconte juste la petite histoire. On a une amie qui voulait suivre un jeûne thérapeutique. Et elle avait aucun courage, aucun engagement, aucun référent par rapport à ça. Et puis on a une amie, Sylvia, que vous allez entendre maintenant, qui dit, ben moi je viens de finir un jeûne de 28 jours. Donc j'ai un truc à dire, quoi. On me dit, ok, mais tu comment on va faire? Donc elle nous a écrit un super mail, on était tellement morts de rire, on était tellement heureuses de recevoir ce mail, que du coup on a enregistré le texte qu'elle a envoyé. Donc c'est la voix de Sylvia avec son magnifique accent italien. Et donc voilà, on va passer Sylvia et ses 28 jours de jeûne.
Je suis au 5e jour de jeûne. Si on compte la descente alimentaire, ça fait 12 jours que j'ai fait un truc radical dingue avec la bouffe. J'ai découvert beaucoup de vidéos, témoignages, articles, forums, etc. Je vais essayer de résumer l'affaire. Je ne suis pas sûre d'y arriver hein, parce que j'ai l'impression que quand les gens parlent de ça, s'ils s'étalent. Au début, je voulais faire 7 jours de descente, 7 jours de jeûne, 7 jours de remontée alimentaire. Quand j'ai découvert que grâce à ma masse de graisse, je pouvais faire entre 21 et 40 jours, je me suis dit que j'allais faire 21. Là, je me dis que tout est bon, dans le cochon et aussi dans la vie. Donc, ce qui va être possible sera déjà un énorme truc. J'ai fumé grave des clopes pendant toute la descente. J'ai fumé 2 clopes le premier jour de jeûne, 2 le deuxième, 1 le troisième. Toujours avec une grande frustration de ne pas fumer. Les 2 premiers 2 jours de jeûne, j'ai galéré plus à devoir arrêter de fumer qu'à arrêter de manger. Hier, j'ai essayé de fumer et je n'ai pas eu envie. En plus, là, pendant que j'écris, l'ami Thibaut me raconte que ceux des Lyra qui ont fait le jeûne politique, vu qu'ils ont fumé des clopes et bu du café, ils ont développé des maladies désastreuses. Du coup, ça ne me donne pas très envie de continuer à fumer. Les 3 premiers jours de la descente, j'ai galéré ma race. Pourtant, je pouvais encore manger plein de choses. Je pense que quand tu aimes, soit tu reçois ce que tu souhaites, soit tu préfères rien recevoir. Les miettes, c'est jamais trop agréable. Ça fait descendre en dignité. Après, chacun sa politique. Les 2 premiers jours du jeûne, qu'avec de l'eau, j'étais hyper contente, hyper fière et hyper motivée. Le 3e jour, j'ai fait la connerie de m'inscrire dans un groupe Facebook des jeûneurs. Et c'était une mauvaise idée. Les moralistes du bien-être, je ne les recommande à personne. Je préfère les autres, les stressés, les fumeurs, les gens qui aiment l'alcool, la fumette, la viande rouge, les féculents et tous les addictifs possibles. Je pense que je préfère même un ou plusieurs pervers narcissiques aux moralistes du bien-être. Les pires, c'est les ex quelque chose. Les ex-fumeurs, les ex-alcool et les ex-gros. Ils ont tout compris, eux. Et si ça ne va pas, et tu le dis, ils te cassent les couilles avec les 5 blessures et les accords Toltec. En passant, bien évidemment, même si ce n'est pas le sujet, les grassophobes non plus, je ne les recommande pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment, vraiment, que les gros méritent de crever et qu'ils arriveront à rien d'autre qu'à être des gros. Être gros et être des gros, ce n'est pas pareil. Dommage, je me suis enlevée du groupe. Assez vite, je me suis demandé au bout de combien de temps les gens qui étaient restés bloqués au pôle Nord suite à un accident d'avion, ils ont commencé à se manger en trop. Assez vite, j'ai eu une très forte pensée pour les anorexiques, car j'ai compris le sens des puissances qu'on peut ressentir à se voir maîtriser la bouffe, le vide et éventuellement les crampes de la faim. Le 3e jour du jeûne, je suis allée acheter des draps chez Ikea et j'ai déposé 140 euros, chose que je ne fais jamais. Je pense que inconsciemment, j'avais besoin de me remplir de n'importe quelle chose. Et donc, vu que ce n'était pas un gigot d'agneau, 2 nouveaux paires de draps, ça faisait l'affaire. J'ai eu très froid d'ailleurs. Si vous prévoyez de faire un jeûne, équipez-vous en tout ce qui est chaud. Mon fils s'est cuisiné 2 repas en tout. Le reste du temps, j'ai cuisiné. Ça ne m'a pas dérangé de le faire, même je n'ai eu besoin. Je devais voir la bouffe, de la manière d'imaginer des recettes. J'aurais bien expérimenté l'expérience de ne pas penser de tout à la bouffe, mais bon, peut-être une autre fois. 2e round. Là, je suis au 7e jour des reprises alimentaires, après 12 jours de glorieux jeûne à l'eau. Ça me fait 26 jours de changement radical. Je virevolte comme une libellule dans mes 12 kilos au moins. Ce n'était pas le but, ça ne va pas durer, mais ça fait quand même du bien. Depuis 3 ou 4 jours, c'est super cool. J'ai la pêche, je dors bien, j'ai les pensées positives. Trop cool. Pour le moment, dans toute une journée, je mange plus ou moins un quart de ce que j'ai mangé avant mon petit déjeuner dans ma vie, d'avant. C'est un peu dingue, mais ça ne me demande vraiment pas trop d'effort. Pas plus que l'effort qui me demandait de sauter un repas en temps normal. Même, je crois que ça m'énerve moins. J'ai peur de reprendre à manger plus, et surtout comme avant. J'ai failli mourir d'une crise cardiaque, car j'ai rompu mon jeûne avec 5 cuillères de guacamole. La nuit, j'ai eu des palpitations assez violentes. La naturopathe que j'avais contactée juste avant pour qu'elle m'accompagne dans la remontée alimentaire m'a dit que j'étais folle à manger autant et que j'allais plus y rester. Je ne l'ai pas pris comme une blague vu les effets. Mais franchement, entendre il y a un mois qu'un demi-avocat c'était excessif et même létal, ça m'aurait fait ma journée. Franchement, une mort par assomption d'avocat, je ne l'avais pas prévu. Au-delà de ça, tout ceci est beau, mais pas très sexy, pas très funky. Si je continue à ne pas fumer, ça me fait plaisir. Si je refume, c'est que ça me fait plaisir aussi. Je rêve pas d'une entrecôte, Mais je développe quand même petit à petit plusieurs fantasmes alimentaires qui, comme tout fantasme, ne vont pas rester tels longtemps vu ma politique par rapport aux fantasmes. La chose qui me manque le plus est de partager les mêmes goûts avec les autres. De ces jours-ci, c'est très difficile d'imaginer comment concilier une vie de bon vivant et une vie de bonne santé, vu que tout ce qui est lié à la vie que j'aime est fait d'excès. La vie sans excès est étonnante, mystiquement fibrillante, agréable car dense, mais quand même un peu ennuyante, même si le business autour du bien-être est tellement bien foutu qu'on peut s'y perdre facilement. Mais la nuit et le business du bon deviennent une chose petite face au bien-être de tout ce bordel d'expérience.
Maledizione, sono in questa cella, da solo. Solo, per modo di dire.
Ma oggi si battiamo.
Ma quando mai? Ma che battiato, si sbaglia?
E l'hai visto al concerto che dicevi che eri battiato?
Ma no, si sbaglia canzone. Guarda, non c'è, stia zitto.
E cantano a canzone.
Ho sonno.
Guarda che se non mi canta a canzone io dico tutto quanto che tu si battiamo.
Shh, vabbè, allora silenzio, per favore. Gliela canto, Canto, stendiamo il tappetino.
Stanchi di Parigi e della sua gastronomia, ce ne andammo a piedi verso l'est, frequentando strade solitarie di campagna, lontano dalla guida Michelin. Il cibo che tu mangi non nutre solo il corpo, ma il cibo dello spirito. Un uomo che mangiasse solo würstel con i crauti avrebbe un'anima di senape.
Pane, salame, piatti di couscous, massa che accorte non mi basta più.
Camionisti russi che mangiavano i cevapcici mi spalmarono di moussaka. Wittgenstein mangiava solo sedani su sedani e non era mica un bischiro.
Cibi antichissimi sulle strade dell'est.
Un uomo che ciucciava un sasso mi vide e me lo offrì. Tornammo a casa magri come dei chiodi, sognavamo solo noccioli. Ed entrammo dentro un ristorante a 5 stelle e mangiammo a crepapelle.
Oh,
c'était David Rondini et Franco Battiato, Mystici di Giugni, la suggestion de Sylvia, dont vous avez entendu le témoignage avant. Et maintenant, je passe la parole à Quenouille Milady, qui va nous parler de son amie Philomène, et plus tard, qui s'entretiendra avec notre invitée Charlotte.
Yalla, yalla. Donc on va parler de Philomène. Certaines d'entre vous, je pense que tout autour de la table, vous connaissez un peu Philomène. Donc Philomène, c'est une de mes amies les plus proches par le cœur et en même temps les plus éloignées par sa pratique et par sa personnalité. Philomène est à la fois peintre, sculptrice, praticienne de shiatsu et de katsungen, ex-professionnelle de MMA, donc la free fight, danseuse, personne malentendante, personne croyante et aujourd'hui bergère dans les Cévennes. Avec son accord, je voulais vous parler d'elle comme une ascète, parce qu'elle a traversé des expériences de mystique et de repli, que ce soit en forêt amazonienne ou dans les Cévennes. Et c'est finalement via un aspect plus intime de sa vie qu'elle va exister dans cette émission. Elle ne pourra pas nous entendre parce qu'elle est en train de garder ses brebis et ses chèvres, mais on lui en parlera. Alors Philomène ne parle pas beaucoup en public, mais elle m'a envoyé ce petit texte en sachant qu'on passerait le court-métrage qu'on va passer après, en tout cas le son du court-métrage. Et voilà les quelques mots qu'elle m'a envoyé pour qu'elle soit présente. Ascèse, amour, addiction. Ascèse d'amour, ascèse du manque. Je suis esprit avant d'être corps. La boulimie, gouffre à combler frénétiquement, avec délectation, jusqu'à overdose du goût, du corps trop rempli. J'attends un peu avant de rendre à la cuvette mes illusions et profiter d'un moment de répit, shooté par le vide. Et donc Philomène est parvenue à... Donc ça, c'était ses propres mots. Elle est parvenue à parler de ses troubles alimentaires dans un court-métrage qui est réalisé par Loïc Espouche. Cette vidéo a été réalisée pour l'association Partage et Écoute, qui est une association qui a existé jusqu'en juin 2020 et qui a disparu. Il y a une autre association qui s'appelle Enfine, qui depuis plus de 20 ans travaille sur l'accueil des personnes touchées par les troubles des comportements alimentaires. Ils assurent un accueil de ces personnes qui ne trouvaient pas de réponse dans les parcours dits traditionnels de soins. Et Enfine, on mettra la référence, n'est-ce pas, Quenouille Aliette, de Enfine sur la page Facebook des Quenouilles, comme ça vous verrez un petit peu quel travail ils font et quelles ressources ils mettent à disposition des proches et des personnes touchées par les troubles alimentaires. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le son en fait, du court-métrage, qui est un court-métrage dessiné qui dure environ 4 minutes, et puis ensuite on parlera avec notre invitée Charlotte Valentine a annoncé. Donc voilà, pendant 4 minutes, on écoute le son de ce court-métrage qu'on mettra aussi sur la page des Quenouilles. A tout à l'heure.
T'es là, t'es en train de m'embêter, là, de dire « Ah, nourris-moi, eh ben je vais pas t'écouter, moi je suis plus fort que toi. » Et du coup, de voir cette balance qui descend, de voir l'effet direct de ce que je mangeais sur mon propre corps, il y a ce sentiment de surpuissance. Il y a vraiment un truc, je maîtrise mon corps. Et donc, du coup, t'as l'impression de maîtriser ta vie, mais en fait, pas du tout. Le froid qui s'installe, ça c'est quand même pas agréable du tout. Parce que t'as froid jusque dans les os, quoi. C'est un froid permanent. Enfin, moi j'arrivais pas à me réchauffer la nuit. Et ça s'installe petit à petit jusqu'à ce que ça soit tout le temps là, quoi. Maman voit que je maigris, elle commence à contrôler mon poids tous les matins, à me demander qu'est-ce que je mange le midi, moi je mens le matin, quand il faut peser, ben, je bois 3 litres d'eau et je mets des gros vêtements, enfin bref, j'essaye de pas ce qu'elle voit. Du coup c'est un peu bizarre parce que d'un côté je vois qu'il y a un problème parce que je sais que maman elle surveille ça et j'ai pas envie qu'elle s'inquiète et qu'elle voit que cette chose est en train de s'installer. En même temps, pour moi, c'est pas un problème. Le psy de mes parents leur a conseillé justement de pas rentrer dans cette relation de surveillance. Et du coup, ils m'ont laissé aller jusqu'au bout de ne pas manger. Jusqu'à ce que, à un moment donné, je me rende compte que c'était pas possible que ça continue comme ça, parce que parce que moi j'allais vers la mort et que j'avais des désirs et des rêves et des choses que j'avais envie de faire avec le monde et que là le monde s'était réduit à mon corps et à ce que je mangeais ou pas. Et donc ce déclic-là m'a fait demander donc, d'être hospitalisée et me rendre compte qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je travaille sur ce problème. Même si ça met donc, quand même plusieurs années, c'est sur cette période-là que j'ai enclenché ce processus de guérison. Tous les choix que j'ai fait après, c'est lié à cette problématique que j'ai abordée dans l'anorexie, qui était de qui je suis, qu'est-ce que c'est qu'un corps, qu'est-ce que c'est qu'un être, quelle place donner à ce corps et à cet être, comment ils ont un rapport l'un avec l'autre, et comment le rapport l'un avec l'autre joue sur le rapport avec l'autre, je veux dire avec les autres. Parce que je peux dire que jusqu'à l'anorexie, j'étais pas Philomène, disons que j'étais la fille de mes parents et la sœur de mes frères et sœurs, et je suivais. Donc c'est après comment je peux dire je suis quelqu'un à ma manière.
Voilà, j'avais introduit Philomène comme boxeuse. Donc là, ce qu'on entend aussi, c'est les entraînements. Et donc, ce que je disais pendant que le son passait, c'est qu'il y a ce petit paradoxe d'être à la fois en train de parler de douceur et envers elle et envers les autres, et puis en même temps de travailler le corps jusqu'à des extrêmes, puisque le MMA, enfin voilà, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux, dont la free fight. Et voilà, les combats de free fight et de MMA, c'est quand même dans une cage. Ronde avec des conditions complètement voilà, enfermantes, et du coup voilà, c'est à la fois libérateur et à la fois enfermant. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui circulent sur le travail de Philomène Zeltz, et donc on mettra ça aussi sur la page Facebook des Quenouilles. Et on a l'honneur, on dit ça en général, on a l'honneur de recevoir Charlotte avec nous. Charlotte, t'es aussi une de nos amies.
Merci, bonsoir.
Et bah voilà, merci d'avoir accepté d'être venue, parce que tu parles bah, un peu comme Philomène dans le court-métrage, de quelque chose qui a occupé ton corps et ton esprit pendant un certain nombre d'années. Est-ce qu'on commence par nommer ce qui t'a justement occupé pendant des années ? Est-ce que tu te reconnais dans un des termes par rapport aux troubles de comportement alimentaire ?
Oui, tout d'abord, il y a l'anorexie. J'ai eu des longues périodes où je me privais de nourriture, où je rationnais le moindre, voilà, la quantité de nourriture que j'ingurgitais. Je pesais, je pèse encore. J'essayais de manger une fois par jour, pas plus. Et puis il y a eu par après, et toujours actuellement, la boulimie. Avec les crises plutôt de boulimie qui sont suivies de vomissements. Voilà, ce sont les crises, je dirais anorexie et crise de boulimie, suivies par les vomissements qui sont devenus justement des rites pour pouvoir. Voilà, c'est tout un chemin, mais un mécanisme que je me suis. Que j'ai mis en place pour pouvoir gérer ce TCA et pouvoir le vivre au quotidien et en prendre parti finalement je le vis bien, je pense.
Question, ma chère Charlotte, question assez concrète, mais c'est important parce que par ailleurs je fais une petite parenthèse, mais moi, j'ai eu l'impression que mon fils, il était un peu dans ces logiques-là et il n'affronte pas trop. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut en parler de manière concrète, quoi. Mm-hmm. Quelles sont les choses qui, selon toi, provoquent un trouble alimentaire? Y a-t-il un point de départ précis? Un cumul?
Ben, je pense que souvent, c'est dû à un traumatisme subi dans l'enfance. Enfin, d'après ce que j'ai pu entendre et avec les amis, je n'ai que des amis anorexiques qui ont, elles aussi, connu un traumatisme dans l'enfance. Et suite à cela, évidemment, le manque d'estime de soi et le refus de grandir, je pense, de passer à l'âge adulte, qui dure beaucoup plus longtemps que... Et donc, voilà, souvent, comme ce sont des femmes qui connaissent l'anorexie, qui vivent cette anorexie, donc il y a souvent un refus de devenir femme aussi, et de refus de ce corps féminin. Et donc je pense que les adolescentes qui, au départ, subissent ce refus de devenir femme et essaient donc d'effacer le plus possible les rondeurs qui pourraient qui arrivent. Donc voilà. Alors, suite à cela, mais soit ça passe, soit elles réussissent à s'en sortir assez vite ou plus lentement, mais je pense qu'après, l'anorexie, si elle perdure, est souvent causée par des frustrations et des difficultés de gérer ses émotions. On va dire que c'est comme si on avait une maturité émotionnelle. Et voilà, ce serait plutôt, je vais dire, ça concerne principalement donc les crises de boulimie qui sont provoquées par des frustrations, comme je l'ai dit, par des peines, par la perte de contrôle, du contrôle qu'on a justement mis en place depuis des années pour gérer sa vie au mieux. Et voilà.
Est-ce que tu peux, toi, dans ta vie, parce que tu es une femme qui a a priori quitté l'adolescence, est-ce que tu peux dire un peu combien de temps ça a couvert, quelle période ça a couvert dans ta vie? Tu parlais encore d'un aujourd'hui,
oui.
Et que même toi tu dis toi-même que c'est quelque chose qui a abouti à une certaine appropriation, tu vis avec ça encore aujourd'hui?
Oui, tout à fait.
C'est pratiquement toute ta vie d'adulte, c'est ça?
Ça a commencé au tout début de l'adolescence, et c'est vrai que ça m'a suivi jusqu'à maintenant. Avec des hauts et des bas, j'ai réussi à maîtriser ça plus ou moins bien à une certaine époque et à d'autres pas. Plusieurs événements dans ma vie ont fait que je retombais plus dedans ou pas. Et maintenant, je vis avec, mais d'une manière tout à fait positive, c'est-à-dire que je me suis appropriée cette anorexie boulimie comme quelque chose de positif et qui me fait... je l'ai accepté, j'ai arrêté de culpabiliser, d'avoir honte de ça, de me dire que j'avais un trouble, une maladie mentale, on va dire, parce que c'est comme ça que les psys l'appellent. Et donc c'est jamais très valorisant. Et puis c'est lors d'une discussion avec une pote où je lui expliquais les fréquences, les vomissements, pourquoi, qu'est-ce que ça me procurait, donc ce sentiment de bien-être, de shooting, on va dire, après. Mais qu'il y avait toujours cette culpabilité après qui venait donc entraver tout ça. Et qui m'a dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu culpabilises? Pourquoi tu ne prends pas ça plutôt comme quelque chose, un besoin qui te fait du bien, un rite, un lavement, une purification? Et c'était la première fois, en fait, que j'entendais quelqu'un qui n'essayait pas de m'aider, mais qui essayait de me dire, mais vis avec. Et depuis lors, c'est vrai que j'ai pu donc petit à petit commencer à maîtriser tout ça et les crises se sont espacées de plus en plus à en devenir quelque chose qui n'est plus vraiment un danger de santé et qui me font justement du bien. C'est vraiment devenu une sorte un échappatoire. Voilà, quand je perds le contrôle, je dois passer par ces rituels pour repasser, retrouver une page blanche, on va dire. Voilà.
Le Philomène qui évoque, Philomène évoque la notion de puissance et même la notion de surpuissance, que vraiment c'est un état proche de la transe, elle travaille aussi la danse. Et donc elle mentionne ça comme des états, non pas second, parce qu'il n'y a pas une part de conscience, mais en tout cas il y a une volonté de récupérer de la puissance. Est-ce que tu te reconnais aussi dans ces termes-là ?
Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc ces cris, cette manière, quand elles étaient assez fréquentes, il y avait vraiment ce besoin de surpuissance qui était là et qui était automatique et qui, actuellement, ça dirige ma vie. En fait, j'ai besoin de ces moments, justement, de me ressentir, de faire le plein, on va dire, c'est comme si je rechargeais mes batteries. Et c'est vrai que ça provoque un sentiment de bien-être, le bien-être intense que c'est pas cette, en fait le besoin initial n'est pas de retrouver de connaître ce bien-être une fois qu'on sait qu'on va être en crise et qu'on fait ces crises, c'est plutôt on vise justement de se purifier, de se nettoyer. Et c'est après que vient, comme une récompense, en fait, cette surpuissance qui revenait à chaque fois, mais qui, pendant toute une période, était accompagnée de culpabilité, donc finalement, qui s'opposait, finalement, parce que ces deux sentiments étaient assez contradictoires. Et j'ai réussi à, j'ai arrêté de culpabiliser, je garde justement tout le bénéfice. De ça.
Alors, une petite question sur les approches psy et physiques. Est-ce que tu les as trouvées appropriées ? Je ne suis pas sûre d'après ce que tu viens de nous dire, mais si tu as quelque chose à nous partager qui serait plus complet là-dessus, est-ce qu'il y a eu des conséquences ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont... J'ai pas l'impression que c'est ça qui t'a aidé en tout cas.
Non. J'ai essayé quelques thérapies, mais ça ne m'a rien apporté personnellement. Et autour de moi, j'ai jamais entendu vraiment ces thérapies, c'est plutôt des thérapies comportementales ou cognitives. Et personnellement, moi, c'est pas là-dedans que je me dirigerais, donc c'est pas vers ça que je conseillerais quelqu'un qui a l'anorexie.
Parce que le parti pris original, c'est de dire qu'il y a un trouble mental, en fait. Ça part de l'idée de maladie. Et de... Voilà. Par moi, de ce que j'ai entendu des personnes qui sont considérées soit boulimie, soit anorexie, soit l'hyperphagie aussi, c'est de partir d'un point de faiblesse. Et toi, ici, tu nommes autre chose. Alors, on ne fait pas l'apologie de l'anorexie. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mais c'est vraiment une idée de partir d'un point de puissance et de contrôle de soi.
Voilà. Et de sa vie.
Et de sa vie. Et donc, du coup, à l'inverse, je crois que la partie psychologisante et pathologisante, c'est partir d'un point de non-puissance.
Tout à fait, et de culpabilité.
Et de culpabilité. Sachant que la majorité des personnes adolescentes n'ont pas encore le contrôle de vers qui elles doivent aller et vers qui elles sont amenées, c'est-à-dire que c'est souvent les proches qui amènent les personnes avec des troubles alimentaires vers les psys, vers les médecins, etc., que ce soit allopathe ou alternatif. Mais donc, est-ce que pour toi, par exemple, la place des proches, elle a peut-être amplifié la culpabilité à un moment, ou elle a dilué ça, comment ? Alors, dans proches, j'entends famille, amis,
oui.
Tu vois, relations amoureuses, je sais pas, mais...
Oui, là, déjà, c'est la peur. On n'en parle pas, là. On n'en parle pas beaucoup. On parle à des personnes de confiance, souvent des gens qui ont le même problème, la même conduite que nous. C'est à ces personnes-là qu'on se confie en général. dont la famille est derrière nous parce qu'elle remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais essaie, oui, en effet, toujours avec un regard plus, un jugement plus négatif et plus craintif que justement les personnes avec qui on se retrouve, ben c'est plus un échange, voilà, aussi ou des pratiques, hein, comment ça puisse se passer mieux, comment voilà, des conseils techniques, mais aussi des ressentis. Et vraiment, moi alors on l'appelle à l'aide aussi, hein, des amis, de dire ben voilà, comment mettre en place un mécanisme qui fait que je ne rentre plus, que je ne puisse plus rentrer dans ces crises. Donc je t'appelle dès que je sens ça, dès que je sens le stress qui arrive, que je vais le faire, je t'appelle. Mais ça, voilà, ça ne marche pas en général. Parce qu'on ne pense pas quand la crise nous prend, on n'a pas la raison et la logique de. Voilà, on ne réagit pas raisonnablement. Mais. Oui, je pense en parler. Le mieux, c'est d'en parler, donc d'avoir la possibilité d'en parler avec des personnes qui vivent la même chose. Et vraiment, oui, arrêter de. De considérer ces troubles comme quelque chose de dramatique et de. Enfin, maintenant, c'est facile à dire. Il y a des périodes, j'ai eu une période, il y a des personnes qui vivent des périodes vraiment très, très graves au niveau physique. Voilà, au niveau de la santé, mais peut-être, oui, moi, c'est ce qui a marché avec moi, c'est quand on m'a vraiment tendu la voie vers une déculpabilisation de cette vie, en fait.
Que nous, Yaliette, tu veux ajouter quelque chose? Ou que nous, Valentine, il y avait une réaction par rapport à ça ou,
Non, ce n'est que je te remercie de partager ça là maintenant ici au milieu du parc parce que j'ai eu l'occasion de me confronter un peu à ces questions et j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça et je trouve ça vraiment très riche et précieux et déplaçant du coup je te remercie.
Merci à toi.
Merci Charlotte.
Je vais juste merci beaucoup Charlotte. Je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose. Oui, en fait, oui. On termine sur la déculpabilisation. C'est bien, c'est une porte d'entrée qui donne
plein de choses. Oui, en général.
Et puis déjà, mais après l'idée c'est d'aller voir aussi un petit peu plus loin parce que là c'est un récit individué et bien situé par rapport à ce que tu dis, mais ça n'est pas évidemment une généralisation. Il est hors de question qu'on généralise aucune possibilité ici, hein, donc on est vraiment ça. Il y a un livre téléchargeable, je vais juste le mentionner rapidement et on le mettra sur le site, sur la page des Quenouilles, un site par rapport au nombre énorme de référencements, de réseaux qui encouragent. Là, pour le coup, c'est vraiment de la culpabilité, mais à l'envers. Donc, à la maigreur extrême, depuis les années 2000, il y a vraiment beaucoup de polémiques amplifiées par les médias qui ont des blogs et des forums qui donnent des conseils vraiment délétères et mortifères pour arriver à un état final, en fait. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement mortifère. Mais ici, ce livre parle donc de ce fameux mouvement pro-ANA, donc pro-anorexie, mais aussi en décryptant les injonctions sociétales très très nombreuses dans lesquelles les jeunes filles, parce que c'est très particulièrement genré, tu disais que tu n'avais pratiquement jamais rencontré un seul homme anorexique, il y en a sûrement, mais en tout cas dans les représentations et dans les cercles de parole, ils n'apparaissent pas. Et que voilà, donc ce site, ce livre, on va le mettre parce qu'il décrit aussi toutes les injonctions et les images ambivalentes que le web peut traverser par rapport au corps des jeunes filles et comment c'est ressenti pour des personnes qui n'ont pas toutes les ressources pour s'armer, comme toi tu l'as fait à un moment, mais après un certain temps aussi. Voilà, on va passer. À quoi on passe, Quenouille, Valentine, sans transition évidemment. Là,
Est-ce qu'on écoute le son que tu nous as apporté en lien avec.
Je me dis, comme on en a parlé, on va peut-être pas le mettre.
Ok.
Et puis voilà, si c'est ok, on passe On passe à la suite.
Ça va.
La suite.
Donc la suite, c'est Aliette.
C'est Aliette, que de Aliette.
Qui introduit Tseke Mariam.
Ouais. Ben, je suis contente de découvrir un peu avec vous Tseke Mariam Gebru. Alors, c'est une ascète, donc c'est quand même génial. On avait besoin d'une ascète dans cette émission. Elle est là avec nous. On va l'entendre. Et c'est une pianiste. Alors, elle passe le plus clair de son temps en compagnie de son piano et de Dieu. Donc les deux ensemble, hâte de découvrir. Virtuose formée au classique, sa vie a été ponctuée de surprenants événements et son énigmatique musique a bénéficié d'une audience internationale grâce à la collection éthiopique de Francis Falsetto. Donc peut-être que j'irai voir ce que c'est et que je mettrai sur la page Facebook parce que dit
éthiopique,
comme ça...
Ouais. Éthiopique, c'est une collection qui, dans les années 70, présente tout le blues éthiopien qui va jusqu'à la funk, à la soul. Donc en fait, à Addis Abeba, il y avait un des plus grands studios de production et les gens du monde entier venaient s'inspirer en fait des éthiopiques qui étaient vraiment un mouvement et un courant politique et musical. Et donc c'est pour ça. Donc c'est une collection, mais il y a mille collections d'éthiopiques sur internet.
Je vous en dis encore un peu plus ou on écoute?
Continue.
Parce que son approche détonne parmi ses compagnons de label, des big bands, du swinging Addis et l'ethio jazz de l'âge d'or de la musique éthiopienne. La beauté et la virtuosité de ses compositions défient les genres établis. Et ça, ça nous plaît, je crois, ce genre de manière de faire de la musique. Donc maintenant, je crois qu'on va pouvoir l'écouter parce qu'elle va nous appeler, elle va nous amener au silence et à la paix intérieure.
Et donc, c'est Tseke Mariam Gebru, Homesickness.
Thank you.
Je ne cherche plus l'ascète. Je ne prie qu'en coup de vent, quoique volontiers. Plus l'ascète qui prend aux tripes parce qu'enfin dégagé de son isolement peu choisi. Ascète à l'ADN conjointe, tu as vécu entre des murs que je ne voyais pas. Ascète malgré toi. Malgré ce qui aussi était ton épiphanie parmi nous, les engrenages de ta vie que tu faisais tourner, non sans souffrance. Tu as été l'ascète qui s'inflige le secret, pourvu que personne ne sache que tu vivais pas comme il fallait. Tu jouais pas le jeu, et plus tu t'isolais, moins tu parvenais à faire de ta vie un empire dans un empire. Ici, une référence à Spinoza, l'empire dans un empire, et son invitation à se penser comme substrat d'une substance unie. Pas de coupure, de la matière à partager. Et même si c'était ton truc, la pensée qui rassemble, qui entraîne sous d'autres auspices que sa gueule, on peut dire que tu as embrassé la 16 avec plus de talent que l'assemblage. Tu as fait la 7 qui s'entête, ta tête qui oublie que rien de ce qui tue ne rend plus fort. Alors aujourd'hui que les quenouilles font le chant libre à un mot qui résonne bizarrement avec cette injonction bien martelée, qui fut pour moi ton acte de décès, cette injonction qui rejoignait trop bien celle de ton addiction. Confinez-vous, là est le salut. Confini, devenu con derrière des murs qui n'auraient qu'à nous protéger plutôt que nous tuer. Toi, ça t'a tué. Je le dis ici parce qu'on a toutes et tous pensé que c'était dur d'être isolé, et pas ce qu'on voulait. Faire la 7 t'a tué. Je m'en fous que tout semble mélanger de ce propos sur un mot qui dit que la privation est une chose choisie. Je dis que pas, que pas vrai. Page de l'OMS. En termes de santé mentale publique, le principal impact psychologique à ce jour est un taux élevé de stress ou d'anxiété. Mais avec la prise de nouvelles mesures et l'émergence de nouveaux impacts, en particulier la quarantaine et ses effets sur les activités normales, les habitudes ou les moyens de subsistance de nombreuses personnes, les niveaux de solitude, de dépression, de consommation nocive d'alcool, d'usage de drogue et de comportement auto-agressif ou suicidaire devraient également augmenter. C'est fini, t'as illustré sans avoir été cité. Je reviens de vider ta grotte, la somme des trucs qui te passaient par-dessus la tête. On a fait le vide de toi, à 7. J'ai envie de raconter à l'antenne, non pas ta mort, seule au cœur du télétravail, mais ce que ça fait de vider la maison de quelqu'un qu'on aime et qu'on n'imaginait pas devoir vider. Ça commence avant de partir, avant de faire le premier pas vers les « nous », station de RER qui rappelle « Nos cabanes » de Marielle Massé, où j'entendis pour la première fois parler de ce mot qui offrait d'autres réserves de sens. N-O-U-E-S. Une « nous » est une sorte de fossé peu profond et large, végétalisé avec des rives en pente douce, qui recueille provisoirement de l'eau de ruissellement, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit pour la laisser s'évaporer et ou s'infiltrer sur place, permettant ainsi la reconstitution des nappes phréatiques. Les nous sont une promesse. Mais ta spécialité, c'était les engrenages, ces petits trous dentés qui entraînent, et créent de l'énergie et des relations de cause à effet. L'engrenage qui s'arrête que si la machine dit stop. Avant d'arriver au nous, on est déjà plombé. On sera 6, on sera triste parce que tu n'es pas là, à destination, dans ton chez-toi qu'on n'a jamais aimé assez. On l'associe avec une défaite dans laquelle tu te serais entêté mais que tu aurais pu surmonter. Orgueil humain qui n'a pas le cœur sur la main. Toi, tu disais rien de pourquoi tu vivais là. Je nous trouve bien arrogants après coup, bien surplombants. Alors que là où t'étais, c'était toi qui importais. On s'est tous dit ça maintenant, tu t'es donné du mal pour nous maintenir à distance, c'est vrai. On t'a ascétisé avec ton accord complet. T'as laissé des regrets, et ça au moins, c'est sans ambiguïté. Les pieds en plomb pour gravir les escaliers de la gare à ciel ouvert. La rue perpendiculaire et bientôt le jardinet à traverser. Le sas, et c'est chez toi. Il faut tout trier, vider, nettoyer, empaqueter et charger vers des déchetteries ou des maisons qui garderont une chose ou plus. Retrouver des photos qui te racontent. Toucher les habits qui t'identifient. Ton fils parvient avec beaucoup de talent à se constituer quelques tenues complètes. Vous avez bien 50 kilos et 15 centimètres de différence, maigre. Il se fait beau de tes oripeaux. Il vient me voir à chaque fois. Il me montre ses looks. Plus tard, il sera pâtissier. Mais en matière de sape, il assure. Il trouve des trombones et se fabrique un collier, des boucles d'oreilles. Il nettoie avec ce qu'il peut. Dans ta chambre, le bordel n'existe plus. Le lit part quasi en premier. Tout devient net. On fait des plans pour vider et on avance sans trop se parler, chacun sa pièce. Sa confrontation avec l'au-delà de toi. Je suis dans la salle de bain. Je sais pas comment je fais pour y retourner encore. J'y suis envoyée et c'est moi qui m'y poste en même temps. C'est là que t'as respiré pour la dernière fois. La salle de bain est petite. Mais t'avais le goût pour les produits d'hygiène, une collection de savons, de mousse à raser, de rasoirs jetables. Toutes sortes de compresses aussi. Des coupe-ongles, en veux-tu, en voilà. Des brosses à cheveux et des peignes. Des rouleaux de papier hygiénique par dizaines dans une panière en osier. Je nettoie. Je vide. J'emballe. J'ai peur aussi. Peur que quelque chose de ta faim se tatoue trop foncé sur mon cœur écorché. Alors je chante et je frotte les murs avec du savon qui sent bon. La salle de bain doit pas faire froid dans le dos. Je pense à la future famille qui viendra s'y laver, je te dis de leur foutre la paix. Je passe un temps fou à frotter chaque carreau. Je me dis, c'est nécessaire pour le passage, le tien vers où tu voudras, le nôtre vers la paix dans nos pensées. De temps en temps, je sors et je vois ce qui se passe autour. On a déjà tous vidé des appartements, on a l'expérience et la volonté. Je suppose que tu nous encourages aussi. Tout ce qui doit être fait s'enchaîne, comme dans les contes où les mains doivent travailler pour prouver des choses. On travaille, on fait des tas de choses. L'après-midi, je passe à la cuisine, le royaume des boîtes de conserve. Tu aimais ça. Tu avais des assiettes ébréchées et un nombre de verres impressionnants, des couverts dépareillés. Ta cuisine était rangée, c'est pas là que tu vivais. Je t'y ai vu cuisiner une fois un bœuf bourguignon, un défi. T'avais pas coupé les carottes assez fines. Je raconte ça plutôt que d'énumérer les produits périmés. Un chocolat liégeois en poudre de 2006. Ton fils décide d'en boire même s'il mousse plus. Il dit, ça me tuera pas. Et j'aime qu'il te juge jamais d'avoir pas fait attention à ce qui garnissait tes placards. Il nous prépare du riz au chili con carne et c'est la première fois que ce garçon, qui était encore pour moi un enfant il n'y a pas si longtemps, me nourrit. Il cuisine sérieusement, parle peu, passe d'une pièce à l'autre et prend des missions en charge. Il te ressemble, comme un clone moins vintage et moins vieux. Toi, comme on t'a connu il y a longtemps. Avec une crête de cheveux peroxydés et des pointes roses, lui. Il est toi avec la fantaisie au dehors. Il s'écrit des trucs sur les mains, grand dans tout ce qu'il porte. Et la maison devient de plus en plus anonyme. On lui caresse les murs pour enlever les toiles d'araignée. On détache les crochets X et répare les volets, les serrures. Le cousin le plus bricoleur du monde fait le jardinage. On évalue l'herbe poussée depuis un an, deux ans. Il y a un magnifique buisson de chardon. C'est plus un jardin, c'est une friche. Ça redevient un jardin. On démonte des meubles et transporte des choses vers la déchetterie. C'est facile comme une évidence et dur comme un enterrement. À la benne, tout ce qui est cassé. Tu avais gardé des meubles depuis notre vie à Mexico il y a plus de 40 ans. J'avais pas envie de les balancer dans un bac qui ressemble à une mâchoire rouillée. Mais c'est ainsi que nous prenons soin de tout, avec courage et capacité à renoncer. Ta vie a passé, on a tout rangé. Les meubles qui restent sont chargés vers deux destinations qui font sens. Je pense ce qui manque dans nos engrenages sociaux les plus élémentaires. T'as le droit d'être petit et devenir grand puis vieux, t'as le droit d'être malade, t'auras l'école, le bureau, l'hospice, l'hôpital. Tu peux contracter des biens et des personnes. L'administration et la banque t'entourent pour tout ça, mais si tu disparais, faut se débrouiller. Il n'y a pas de service mortuaire pour accompagner ce genre de journée où on vide la maison de quelqu'un qu'on aime et qu'on n'imaginait pas devoir vider. On l'a fait. J'aurais pu citer Nietzsche pour terminer, il a écrit des pages enflammées sur l'idéal ascétique. Il a prouvé moyen les peines à jouir, mais je préfère vous livrer d'autres mots d'une qui aurait pu être quenouille, en fait, Simone Veil, philosophe marxiste anti-stalinienne. Alors je dis un peu qui c'était parce que c'est chouette, je sais pas si vous la connaissez, les autres quenouilles. Un petit peu. Bon, en gros, elle est née à Paris en 1909 et morte à Ashford en 1943. Et elle a souhaité faire de la philosophie une manière de vivre, non pour accueillir des connaissances, mais pour être dans la vérité. Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle écrit, mais je trouve ça inspirant d'aller parfois vers des extrêmes. C'est peut-être de ça aussi qu'on parle aujourd'hui, en fait. Et du coup, Quenouille Valentine va nous lire 5 tout petits passages en crochet. Qui font pas du tout, que chacun pourra interpréter comme il le désire.
D'un recueil donc qui s'appelle La personne et le sacré. Il y a dans chaque homme quelque chose de sacré, mais ce n'est pas sa personne. Ce n'est pas non plus la personne humaine, c'est lui, cet homme, tout simplement. La notion de droit, lancée à travers le monde en 1789, a été, par son insuffisance interne, impuissante à exercer la fonction qu'on lui confiait. Amalgamer deux notions insuffisantes en parlant des droits de la personne humaine ne nous mènera pas plus loin. À notre époque, où les écrivains et les savants ont si étrangement usurpé la place des prêtres, le public reconnaît, avec une complaisance qui n'est nullement fondée en raison, que les facultés artistiques et scientifiques sont sacrées. C'est généralement considéré comme évident, quoique ce soit bien loin de l'être. L'erreur qui attribue à la collectivité un caractère sacré est l'idolâtrie. C'est en tout temps, en tout pays, le crime le plus répandu. Celui aux yeux de qui compte seul l'épanouissement de la personne a complètement perdu le sens même du sacré. Il est difficile de savoir laquelle de ces deux erreurs est pire. Souvent, elles se combinent dans le même esprit, à tel ou tel dosage. Mais la seconde erreur a bien moins d'énergie et de durée que la première.
Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum